Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sandrine Clavier.
Bonjour.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Je suis ravie, merci à vous.
Racontez-moi Sandrine, comment et pourquoi vous êtes devenue avocat?
Je suis devenue avocat, ce n'était pas du tout une vocation. Initialement, j'ai commencé mes études à Paris. En fait, mon père était fonctionnaire international et j'avais plutôt comme idée de travailler très vite comme lui, enfin de travailler en ambassade, donc de passer le concours du ministère des Affaires étrangères. À l'époque, mon père était muté au Canada. Et en fait, on nous a dit, si elle veut faire la même carrière ou une carrière comme toi, comme elle est native française, il serait plus opportun qu'elle fasse ses études en France. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mes parents sont rentrés pour moi à Paris. Et en réalité, je suis arrivée en première année de droit. Et j'ai adoré. J'ai eu l'impression qu'on me donnait des clés pour comprendre le monde qui m'entourait. J'avais l'impression de comprendre ce que je lisais dans les journaux. Enfin, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé à tel point que je pense que si mes parents m'avaient pas dit non, maintenant il faut qu'on reparte, il va falloir que tu travailles, j'y serais encore.
En train de faire des études?
En train de faire des études. Il y a rien qui me plaisait plus que l'odeur des livres à la bibliothèque Cujas. Enfin, donc, j'ai tout aimé. Je trouvais tout passionnant.
Et du coup, vous êtes devenue avocate, vous n'êtes pas partie dans le parcours fonction publique?
Non.
Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai rencontré mon mari en première année de droit.
Et ce mari, qu'est-ce qui fait que...
Et ce mari, il aime la France, il est français, il voulait être notaire, il l'est d'ailleurs, et il n'a jamais voulu quitter, ou en tout cas pas pour des voyages, mais en tout cas pas pour des installations temporaires.
Pas pour une année, deux années ici et là, etc. quoi.
Et en réalité, ça m'a plu, j'avais beaucoup voyagé petite, j'étais contente de m'installer et puis j'aimais tellement ce que je faisais que j'avais pas l'impression de le subir.
Ouais, et comment est-ce que vous avez réorienté justement le parcours après?
En fait, c'est devenu une évidence déjà parce que le droit pour moi c'est comme un jeu. Donc on apprend des règles et après on les applique et on joue avec. Et donc comme je suis extrêmement joueuse, j'ai toujours été. Du coup, c'était assez naturel. C'était soit chargé d'enseignement, mais du coup je le fais aussi, donc finalement je l'ai complété également, mais c'est vrai que être avocat ça m'a tout de suite attiré et plu.
Ouais, vous avez quand même eu l'idée de faire un doctorat ou...
Oui,
ouais.
Oui, mais ça a été niette. Mes parents m'ont dit non, là, ouais. Tu commences à travailler. Donc j'ai quand même négocié de faire, à l'époque c'était des DEA, donc j'ai fait deux DEA. Comme j'ai été pris au DEA de la Sorbonne en droit des affaires et droit des sociétés, je l'ai fait en n'ayant aucune appétence pour le droit des sociétés. Je voulais vraiment faire de la propriété intellectuelle. Mais mes professeurs m'avaient incité à faire plutôt un troisième, un DEA plutôt généraliste. Et donc j'ai ensuite fait un DEA de propriété littéraire artistique à Assas. Et je me souviens que mes parents m'avaient dit « Arrête, vraiment, on s'en va, là, il faut que tu arrêtes. » Et donc, comme j'ai réussi le concours d'entrée au CRFPA très rapidement, puisque je l'ai tenté après le DEUG, j'ai fait les deux en même temps.
Ouais.
Pourtant, à Assas, on nous avait dit « Vous vous engagez à ne pas faire l'école du barreau en même temps. » Mais comme il fallait que je cumule, donc j'ai tout cumulé.
Et pourquoi la propriété intellectuelle?
Alors ça, je suis persuadée qu'on est avocat en fonction d'une... soit d'un goût, soit d'un manque. Et je ne me sens pas du tout créatrice. J'ai des amis autour de moi qui inventent, qui sont hyper doués de leurs mains, qui ont des qualités artistiques, créatives. Et j'ai toujours été passionnée par les gens qui créent. Je suis assez fascinée, en fait, par tout ce qui est création. Et ne me l'étant pas du tout, ça m'a toujours attirée et je m'épanouis beaucoup dans cette fonction d'accompagnement, de protection. J'ai l'impression d'apporter... quelque chose à... Je dis toujours, mes clients, ils rentrent dans mon bureau, ils sont enthousiastes, ils repartent, ils sont un tout petit peu paranoïaques parce que comme mon objectif, c'est de les protéger, j'ai plutôt tendance, effectivement, à vouloir sécuriser. Et ça, c'est un vrai accomplissement. D'où le fait que j'ai beaucoup, beaucoup d'intérêt pour les startups, et pour tout ce qui est création d'entreprise.
Oui. Et vous dites, vous ne vous sentez pas créatrice alors que vous avez commencé tout à l'heure en disant, je suis très joueuse, j'aime
oui.
bien... Et pour moi, il y a une forme de création dans le jeu. En tout cas, il y a une forme de créativité dans la capacité à jouer de manière chouette, quoi.
Ouais, je sais pas, c'est l'enthousiasme. Moi, j'adore jouer. Enfin, voilà, c'est une Voilà, n'importe quoi, mais ma grand-mère était joueuse, mais ma mère aussi, la belote, la coinchée, le tarot, tous les jeux de société, ça m'a toujours stimulée, je suis toujours partante. Et c'est vrai que c'est un raccourci un peu rigolo, mais c'est vrai que je vois cette profession dans la manière dont moi je l'exerce un peu comme ça. Je prends beaucoup de plaisir à le faire, c'est intellectuellement très stimulant. Ça ne veut pas dire que ça dévalorise l'intérêt des dossiers, au contraire, mais c'est vrai que la manière de l'aborder, elle est toujours extrêmement stimulante. Et ça, c'est amusant. Enfin, ça me plaît beaucoup.
Et donc, vous passez le CRFPA, vous rentrez à l'école, en parallèle, vous faites votre deuxième DEA en propriété intellectuelle. Où est-ce que vous faites vos premiers stages, vos premières expériences professionnelles? Comment ça se passe?
Alors, les premiers stages, c'était à Paris, bien sûr. Il y avait tout ce qui était stage en entreprise. Donc, j'ai fait un stage chez Droit d'urgence, où on gérait en fait tout le droit des étrangers. Alors là, je rentrais en larmes tous les soirs. Voilà. Donc, je voulais adopter tous les gens que je rencontrais. Je voulais héberger tout le monde. Ça a été très intense émotionnellement. Mais je me suis pas retrouvée. Je me suis pas retrouvée dans la manière dont les avocats que j'accompagnais l'exerçaient. Et je ne me suis pas retrouvée. Donc, j'ai dit que je suis joueuse, mais je suis joueuse avec les règles. Et quand je voyais qu'on recommandait à des gens de ne pas faire certaines choses, de ne pas déférer à certaines convocations, à la préfecture, par exemple, j'étais très mal à l'aise avec cette façon de faire. Ce qui me caractérise, je pense, c'est que voilà, la règle, elle est la même pour tout le monde. On la connaît, on l'applique, et après, bah, il faut voir ce qu'on peut faire avec. Mais j'aime pas la triche. Voilà.
Et vous avez eu l'impression que c'était en tout cas que les personnes que vous voyez exercer cette matière, s'affranchissaient pas mal de certaines règles.
Ben, c'est ce qui m'a gênée, peut-être. Est-ce que c'était s'affranchir de certaines règles ou délibérément se dire qu'il fallait pas les respecter? Mais il y avait quelque chose qui n'était pas en cohérence par rapport à ma façon d'être. Et du coup, je ne me reconnaissais pas dans les conseils qui pouvaient être donnés, même si je comprenais l'intérêt, évidemment, in fine.
Oui. Et donc ça, c'était une première expérience?
Ça, c'était une première expérience très enrichissante, très passionnante. Et après, ben, c'était en stage en cabinet d'avocat. C'était un tout petit cabinet. Ça m'a bien plu, mais il faisait beaucoup de droit du travail. Et là, pour le coup, ça aussi, ça, c'est un droit que je ne comprends pas. C'est comme le droit administratif. Voilà, quand c'est pas du bon sens et que je comprends pas la finalité, j'ai beaucoup du mal à adopter, à adhérer. Voilà. Donc ça, clairement, je savais que je voulais pas exercer dans le domaine du droit social.
Oui. Comment vous vous êtes retrouvée dans un cabinet qui faisait pas mal de droit social avec un parcours droit des affaires, propriété intellectuelle?
Je pense vraiment que c'est les opportunités, en fait. Je suis une chanceuse. J'ai l'habitude de dire que moi, j'ai l'étoile de la chance au-dessus de la tête. En fait, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, c'est des trains qui passent et dans lesquels j'ai su monter. Donc, j'ai croisé ces avocats qui cherchent une stagiaire. J'ai pas envoyé de CV, j'y suis allée. Pareil, après, en sortant, c'est des rencontres. Et c'est à chaque fois les rencontres qui ont fait mon chemin.
Oui. Donc, à la fois, vous saviez ce que vous vouliez faire. En tout cas, vous saviez que vous aimiez beaucoup la propriété intellectuelle et artistique. Et en même temps, vous n'étiez pas contre le fait de sauter dans des trains qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ça.
Alors, sachant qu'il y a 26 ans, 27 ans en arrière, en réalité, on était avocat du stage avant. Et donc, comme on était inscrit sur la liste du stage, de toute façon, il était recommandé de ne pas se spécialiser. C'est-à-dire que nous, on insistait beaucoup en nous disant « Il faut que vous abordiez les choses dans un cabinet généraliste. Vous êtes censé pouvoir faire du droit de la famille, du droit social, du droit des affaires. » Donc j'étais formatée en me disant ça viendra oui. Après, mais pour l'instant, il faut que j'apprenne mon métier dans tous les domaines. Donc, j'ai plaidé au conseil de prud'homme, j'ai plaidé des divorces. Je me souviens, j'avais 24 ans, je trouvais que je voulais à tout prix réconcilier les gens parce que j'avais beaucoup de mal à les divorcer. Enfin, voilà, ça a été pareil. En tout cas, ça a été des expériences enrichissantes qui m'ont convaincue que c'était ce que je ne voulais pas faire.
Oui. C'est fou à quel point les choses ont changé, parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le conseil qu'on donne aux jeunes, quoi. Alors, on essaye de leur dire, voilà, il faut quand même que vous ayez une culture générale de ce qui se passe dans les autres matières pour pouvoir faire des connexions, un dossier, le prendre de façon holistique, savoir déclencher les interventions des bons avocats partenaires, parce qu'en fait, il y a un autre angle qui n'est pas de votre spécialité, etc. Mais c'est quand même un énorme encouragement à la spécialisation et à la surspécialisation des démarrages.
Je suis convaincue. Ouais. Je trouve que c'est vraiment ça. Enfin, nous obliger à faire de tout, et du coup être en danger surtout, parce que déjà que c'est compliqué de maîtriser son domaine et sa spécialité, parce que le volume législatif et jurisprudentiel est tel que pour tout connaître, il faut déjà, et encore, c'est une prétention que j'oserais même pas avoir, mais c'est vrai qu'en plus aborder, je suis très admirative des avocats généralistes, je pense que je serais vraiment très torturée de louper des choses évidentes.
Et donc ça, c'était votre stage final et le stage ? Ou le stage, c'était le stage final ?
Enfin, c'était le stage final et après,
Vous êtes resté 2 ans dans ce cabinet ?
Non. Après, je suis partie dans un autre cabinet qui cherchait, pareil, c'était une amie qui était dans ce cabinet, il cherchait une collaboratrice. Donc là, j'ai travaillé dans le cabinet de Ginestier Palais-Vincent. Mm-hmm. Et voilà, et la première fois où vous voyez plaider Catherine Palais-Vincent, vous dites, ok, d'accord, il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire. J'étais extrêmement admirative, c'est vraiment...
Comment est-ce qu'elle plaide, Catherine Palais-Vincent ?
C'est un festival d'images, voilà, on est projeté dans le dossier. J'adorais l'avoir plaidé, voilà, tout en me disant que j'arriverais jamais à sa cheville. Non, ça a été très formateur, c'était quelqu'un de très éloquent, de vraiment très, très passionnée, très passionnante. Voilà.
Et là, vous vous étiez rapprochée de la propriété intellectuelle ?
Non, justement, toujours là, pas. C'était plutôt du droit médical.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Donc, j'aimais beaucoup le droit médical. Donc, du coup, j'ai fait beaucoup de permanences au Conseil national de l'Ordre des médecins et au Conseil départemental. J'aimais beaucoup le droit médical, mais pareil, je n'étais toujours pas dans ma spécialité. Donc, comme le cabinet savait que j'avais cette appétence, dès qu'il y avait un dossier en me disant « Sandrine, il y a un droit des marques, tu veux t'en occuper ? Oh, oui, il y a un problème sur la gestion des droits d'un photographe. » Donc, j'étais ravie, mais c'était des petits dossiers et j'avais personne pour me former, ou pas vraiment. Donc, c'est vrai qu'au bout de 4 ans, pareil, alors encore une fois, une opportunité, on m'a proposé de rejoindre le cabinet Bignon-Lebray où il y avait un nouveau département qui se créait en matière de propriété intellectuelle. Et je suis partie.
Eux, c'était dans le cadre d'une démarche de recrutement, c'est une opportunité plus indirecte. Enfin, comment ça s'est créé cette opportunité ?
En fait, c'est vraiment... C'est encore un train qui est passé, ouais. Où on m'a dit on cherche une collaboratrice en propriété intellectuelle. Est-ce que tu veux venir ? J'ai postulé et puis j'ai été prise. Voilà,
et pour le coup, le fait que vous n'en ayez pas fait pendant 4 ans, ça n'a pas été bloquant ?
Apparemment pas.
Ouais.
Je me suis régalée, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Après voilà, toutes ces expériences-là, il y avait du bon et du mauvais, comme toujours. Et on grandit au fur et à mesure. Je trouve que j'ai l'impression que quand même l'évolution de la profession fait qu'il y a peut-être plus de respect... plus de respect de l'humain, des goûts personnels, de la manière de se comporter. Moi, j'avais pas de comparaison et comme j'étais corvéable à merci, je trouvais tout normal. Au contraire, je me disais j'ai de la chance. Encore une fois, ça dépend toujours du prisme qu'on choisit. Mais moi,
non, mais c'est un discours qui revient beaucoup avec les avocats de votre génération. Le fait que quand ils ont commencé, le sentiment, c'était plutôt, en fait, j'ai de la chance d'être là et j'ai de la chance qu'on veuille bien m'avoir comme
Exactement.
Collaborateur et me former. Quoi.
Moi, je me souviens quand j'ai passé mon entretien de recrutement, on m'a dit, bon alors combien vous voulez ? C'était en francs à l'époque, 13 000 francs, 14 000 francs. Et je me revois en train de dire, oh, 13 000 francs, très très bien, vous savez, j'ai tellement envie de travailler. Donc, c'était très naïf.
Oui. Vous êtes restée combien de temps chez Bignon-Lebray ?
Chez Bignon-Lebray, je suis restée longtemps, puisque je suis restée 6 ans, pratiquement, oui, 6 ans, parce que j'étais à Paris. Et en fait, j'avais vraiment l'idée de revenir un jour dans le sud, puisque moi, je suis native de Toulon, ma mère est marseillaise, mon père est de hier, donc toute ma famille était dans le sud. Et je m'étais, en fait, avec la naissance de mon premier enfant, d'un coup, hein, je me suis dit, ah non, mais en fait, je peux pas vivre là. Ça y est, je me souviens. Il n'y a pas de ciel, c'est vrai. On porte les manteaux, on allume la lumière au mois de juillet. Ah non, je peux plus, en fait. En fait, ça m'a pas gênée pendant des années. Et d'un coup, avec la naissance du premier petit, là, et puis mon mari est rentré un jour et j'avais préparé pour lui 80 CV. En lui disant, tiens, voilà, regarde, si tu veux, tu peux postuler à toutes ces études de notaire là, si tu veux. Il me dit, ah d'accord, c'est maintenant. Ah oui. Donc lui, qui était un Parisien pur jus, ça a été sympa qu'il fasse la démarche d'accepter d'essayer.
Oui, vous avez renoncé à l'international et lui,
il a renoncé à Paris.
Ça va, c'est un fair deal. Et du coup, vous êtes revenu à Marseille et dans quel contexte ?
Alors, comment... à Aix-en-Provence d'abord, puisque Bignon-Lebray avait en fait le cabinet était à Aix-en-Provence. Là, c'était très chouette parce que c'était une nouvelle équipe qui arrivait, qui était des anciens de chez Ernst. Donc pareil, il y avait tout à créer, on bossait comme des dingues, on n'avait pas d'horaire. On n'avait vraiment pas d'horaire. Après, ce qui était rigolo, c'est que je me souviens, mon mari m'appelait souvent à 20h, 21h en me disant « t'es où ?» Et tous les copains et les avocats des bureaux d'à côté criaient « je vois le PH d'Aubagne !» Ce qui n'était pas vrai du tout, parce que j'étais toujours à Aix. Donc ça faisait partie du running gag. Voilà, c'était une époque différente encore.
Oui. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Bignon-Lebré, vous avez switché d'une équipe à l'autre. Quoi.
Oui.
Ouais. Il y a eu cette flexibilité sur l'organisation. Bah, j'imagine c'est facilité ça. Par le fait qu'il y avait cette ouverture de bureau à Aix.
Oui, oui. Après, quand je suis partie, on peut pas dire qu'on est. Voilà, c'était voilà, la confiance, c'était. Bah, écoute, tu veux partir, très bien, on te laisse un an. Nous, on pense que dans le sud de la France, il y aura du droit de la famille, de la cession de fonds de commerce, mais qu'il y aura certainement pas d'innovation et que tu feras pas de propriété intellectuelle. Donc, on t'aime beaucoup, on a beaucoup confiance en toi, mais si dans un an, t'as rien développé, tu sautes. Ah d'accord, très bien, ok, bah écoutez, gros challenge, voilà.
Et finalement, il y en a eu de l'innovation dans le sud de la France.
Et finalement, c'est un vivier de pépites.
Comment vous vous y êtes prise pour aller chercher cette innovation, pour aller chercher ces clients dans le cadre du départ à Aix?
Alors déjà, c'était assez amusant. Bon, déjà, on m'a quand même envoyé des dossiers, donc ça a été de pouvoir les traiter à distance. C'était quand même un vrai confort de pouvoir me l'offrir. Et après, ce qui s'est passé, c'est toujours pareil, c'est des rencontres. En fait, j'ai accompagné une société dans la région qui est spécialisée en fait en pharma, sur le développement d'une nouvelle molécule. En fait, ils étaient quatre au début, et puis on a grandi ensemble. Et c'est vrai que, enfin voilà, ce fondateur-là que j'ai accompagné depuis du coup maintenant pratiquement 20 ans, 15 ans plus exactement, m'a présenté à des structures de la région. Et petit à petit, en fait, en faisant des interventions, je suis devenue expert en propriété intellectuelle pour Marseille Innovation, qui est une structure qui est sur 4 sites ici à Marseille, qui fait de l'accompagnement de start-up. Et c'est une chance incroyable de pouvoir travailler dans cette structure. C'est beaucoup de temps, mais c'est très épanouissant parce qu'on voit les sociétés ou les porteurs de projets vraiment au démarrage. Et plutôt que de les voir quand ils se sont fait voler leur idée ou quand les choses sont mal passées, on a l'impression d'être au bon endroit, au bon moment pour les alerter. Donc ça, ça s'est fait petit à petit.
Oui. Vous les trouvez réceptifs?
Je les trouve réceptifs.
Aux questions de protection de leur, aux investissements qu'il faut qu'ils fassent pour se protéger assez tôt. Parce que j'ai la sensation que c'est la frustration. Bon, je pense que la frustration de tout avocat, c'est le fait de voir des personnes qui ne prennent pas, entre guillemets, de mesures de prévention des difficultés en amont. Les avocats en droit des sociétés regrettent les pactes d'associés absents ou mal faits. C'est un peu tout le monde qui regrette. Et souvent qui part de... une sous-estimation par les clients de l'importance en fait d'investir à un moment où il n'y a pas encore de problème pour se protéger. Est-ce que vous, dans le cadre de ces interventions, vous avez eu l'impression que ces porteurs de projets qui étaient vraiment toutes jeunes pousses, ils étaient réceptifs à ces questions de propriété intellectuelle?
Alors l'avantage, c'est qu'en ayant autant d'expérience, je manque pas d'exemples. Donc en réalité, l'exemple, toutes les présentations que je peux leur faire, la sensibilisation, elle est quand même nourrie de catastrophes passées qui viennent beaucoup illustrer et insister sur le minimum qu'ils devraient mettre en place. Donc c'est vrai que le discours passe bien. Après, ils ont le nez dans le guidon, ils sont très sollicités, il y a énormément de choses à faire. Mais je trouve que des structures comme Marseille Innovation, comme les structures qu'on a ici, elles offrent ce temps de prise de hauteur par rapport aux choses qu'il y a à faire. Et c'est un peu l'objectif, c'est de les accompagner le plus loin possible. D'ailleurs, c'est un peu comme ça d'ailleurs, que je vois mon métier. Je fais ce geste-là qui ne se voit pas du tout à la radio, mais
qui
est vraiment de porter, de faire s'envoler. C'est une vraie... Alors oui, ça, ils écoutent plus ou moins. Ils reviennent plus ou moins, ils sont voilà, ça c'est sûr, mais les projets sont plus ou moins aboutis, donc mais c'est tellement enthousiasmant. On passe d'une greffe de molécules à une voiture volante, une nouvelle application de rencontre, c'est d'une telle richesse que c'est tous les jours passionnant. Et puis en plus, on apprend tout le temps. Enfin, je trouve que cette matière, elle a ça d'intérêt que que voilà, si vous y connaissiez pas en code source et code exécutable, bah, il est temps de s'y mettre. Si non, mais c'est vrai, moi chimie c'était pas ma matière fétiche à l'école, et c'est vrai que ben un de mes clients m'avait dit, bah tu vois, moi je peux devenir ton stagiaire en droit, parce qu'on a eu deux fois 7 ans de procédure, et il me dit, toi je te décerne ton diplôme de chimiste. Donc je me suis dit, bon, on à force on apprend beaucoup. Ça c'est quand même incroyable. D'ailleurs l'équipe, souvent elles me disent, il y a rien qui te rend plus heureuse que quand tu sors du cabinet et que tu vas visiter des usines. Je suis ravie de sortir. À Paris, on sortait jamais. Et je trouve que là, prendre ce temps qui n'est pas facturable, qui vraiment pourrait apparaître comme une perte de temps, mais qui permet d'aller voir ce que les gens font, qui fassent partager leur intérêt pour leur techno, c'est une récréation.
Et donc, ce réseau avec France Innovation, ça a été vraiment porteur pour vous de pouvoir aller capter justement ces porteurs de projets et, oui, et les développer comme clientèle.
Et après, c'est vrai que c'est que du bouche à oreille. Donc, c'est vrai que moi, j'étais chez Bignon-Lebray. Ensuite, j'ai été démarchée pareil par un copain qui était parti chez Tage en me disant, viens chez Tage, tu vas voir, là, ça va être un développement complètement différent. Vois la taille du cabinet international. Viens à Marseille, il n'y a pas de propriété intellectuelle. On va créer le département, il y aura plein de choses à faire. Et pareil, j'ai adoré. Moi, je suis arrivée chez Taj, je me suis dit, oh, mais c'est une machine de guerre, c'est énorme. J'adorais on avait tout à portée de main, des formations. Tu veux un nouvel ordinateur, t'as un nouvel ordinateur. Tu veux une interview par la rédac chef de n'importe quel, des Échos, elle t'appelle demain. Enfin, je trouvais que tout était facile et c'est une vraie machine de guerre. Après, le corollaire on n'en a pas spécialement parlé, mais c'est vrai que moi, je me suis toujours vue collaboratrice.
C'était la question que j'allais vous poser. Vous étiez toujours collaboratrice.
Moi, j'étais toujours collaboratrice et je me plaisais beaucoup en tant que collaboratrice. En fait, je n'imaginais même pas que cette spécialité puisse vivre toute seule. Donc, en fait, c'est pour ça que je ne me suis pas projetée dans la création de cabinet. Je m'étais dit, mais enfin, les gens qui viennent nous voir, ils ont besoin que quelqu'un les aide en droit des sociétés, en droit fiscal, fasse leur contrat de travail, mais quelqu'un qui fait que de l'API. Est-ce que, du coup, ça a du sens de faire une activité qui fasse que de l'API? Donc, je suis partie chez Tage et c'est vrai que la maladresse ou les choses où j'étais pas à l'aise, c'était tous les conflits d'intérêts, mais qui connaissent parfaitement, mais qui s'avère être extrêmement bloquante pour pouvoir continuer à travailler, en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, oui, mais moi, ce que j'aime, c'est être auprès des startups, c'est pas ce qu'ils vont me rapporter. Je caricature pas, parce que je dis pas que c'est leur principal moteur, mais moi, en tout cas, c'est clairement pas le mien.
Oui.
Alors, du coup, j'étais pas en adéquation, et puis j'aime bien recommander des gens dont je suis fière, dont je connais le travail, pas nécessairement parce qu'on est dans le même immeuble. Enfin, il y avait plein de choses qui du coup me rendaient pareil. C'est toujours une question d'alignement, hein. C'est comment je suis et comment je veux exercer. Donc, j'ai des principes, voilà. Enfin, ils font que je tienne debout. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que. Et là, j'étais chez Tage et j'ai appelé deux de mes clients. En leur disant, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je peux me lancer à mon compte? J'ai pas du tout envie, mais qu'est-ce que t'en penses? Et ils m'ont dit, on sait que tu fais de l'API. Nous, on vient te chercher pour ça. Donc, que tu t'appelles Pierre, Paul ou Jacques, ça, on s'en fout. Donc, on vient et on sait que ce que tu sais pas faire, tu vas nous orienter ailleurs. Donc, c'était pas forcément évident quand j'ai créé le cabinet de se dire, on va faire un cabinet que de propriété intellectuelle. Est-ce que vraiment, est-ce que ça peut survivre en faisant que de l'API? C'était pas. Je savais que il y avait une équipe, enfin l'équipe de Bouzy à Paris avait fait en fait ce pari, mais ici à cette époque-là, c'était pas du tout la règle.
Et finalement,
quel bonheur! Et finalement, si je devais parler business model ou business plan comme font mes start-upers, je dirais que dans mon business model, il y a un point que j'avais pas du tout identifié, mais pas du tout, c'est que ce soit les autres cabinets d'avocats qui m'envoient leur dossier. J'ai pas imaginé deux secondes que ça pouvait être comme ça. Mais comme ceux qui me connaissaient se sont dit, de toute façon, si elle fait de l'API, elle fera pas de droit des sociétés, donc on peut lui envoyer nos dossiers. Pareil en droit du travail. Donc du coup, comme je suis jamais sortie de ma zone de ce que j'aime faire et de ce que je sais faire, j'espère. Du coup, j'avais pas imaginé que les autres cabinets nous adresseraient autant de dossiers.
Ouais, d'ailleurs, on est gentiment hébergé par Camille Merlet du cabinet Exactement. Constance Avocat. Encore une fois, qu'on remercie. Ça a été son réflexe hein, quand vous êtes arrivé de dire, bien sûr. En fait, si Sandrine,
oui, c'est ça.
En propriété intellectuelle, je vous envoie des dossiers.
Exactement.
Enfin, je vous recommande auprès de clients,
exactement,
etc.
Ouais.
C'est pour ça que moi, les personnes qui disent « Ah non, mais en province, les cabinets de niche, il faut nécessairement être pluridisciplinaire, voire généraliste et tout », j'y crois pas du tout parce que qu'en fait, ça fait partie du, justement du business model qui fait que finalement, c'est une manière de réduire la concurrence aussi, quoi, de pouvoir coopérer plutôt que de tout le monde être sur tout et finalement, il n'y a pas cette circulation d'apport de dossiers entre confrères.
Et c'est un tel confort en plus parce que en termes de recommandations, j'appelle, je dis je t'envoie tel dossier, vraiment c'est quelqu'un auquel je tiens, fais attention. Le client me dit ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé. Enfin, en règle générale, ils me disent plutôt ça s'est bien passé, mais, mais l'avantage c'est que comme on n'a pas d'intérêt autre que l'intérêt du client, c'est extrêmement vertueux. C'est sain comme façon de faire.
Comme manière de fonctionner, oui. Quand est-ce que vous vous êtes installée, du coup ?
Alors, j'étais enceinte de 7 mois quand je quittais Tage pour m'installer.
Ah ouais ?
Et oui. Donc, je suis d'abord partie, j'ai créé un tout petit cabinet qui s'appelait Cosmed, où je suis partie avec Cosme, et je suis partie avec une consoeur qui était avocat fiscaliste, mais on partageait juste, c'était une société civile de moyens. Donc j'étais enceinte de 7 mois avec ma stagiaire sous le bras. Je suis partie, donc je traitais mes dossiers le matin et l'après-midi de l'accouchement, mais avec beaucoup d'enthousiasme, parce que j'étais tellement contente de travailler en même temps que... Voilà, donc ça c'était une super aventure. J'ai plein de photos avec le bébé dans le cou
ou
accroché à moi. Et voilà, c'était marrant comme période. J'en ai pas du tout souffert. J'ai plutôt un souvenir extrêmement enthousiasmant.
C'était une intention de cumuler, on va dire, cette naissance avec la naissance du cabinet ? De se dire que ça va être une fenêtre de changement.
En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est que quand je me suis aperçue que j'étais plus en adéquation avec mes principes et ma façon d'être, je me suis dit, il faut que je parte. Mais je ne me suis pas dit, il faut que je parte une fois que je vais avoir accouché. Ça ne résonne pas comme ça chez moi. C'est toujours pareil, les principes, c'est je suis alignée ou je ne le suis pas. Donc ça n'allait plus, donc je suis partie. Enfin,
oui, et il se trouve que ça a coïncidé avec le fait que vous étiez enceinte.
Il se trouve que j'étais enceinte et voilà. Et j'ai plusieurs clients qui étaient étonnés d'ailleurs parce qu'ils ne l'ont su qu'après. Ils me disent, mais quand je t'ai appelé tel jour, je dis, oh oui, j'étais à la maternité. Enfin, voilà, ça, j'en ai pas forcément parlé, ça m'a pas gênée, c'était pas traumatisant, ça a été hyper bien vécu, donc c'était pas un problème.
Oui. Enfin, est-ce que ça a tout de suite pris ? Est-ce que, les démarrages ?
Alors, ce qui est vraiment fondamental, je pense, et je sais pas si c'est partagé ou si vous l'avez ressenti dans certaines interviews, mais je pense que pour se lancer ou être bien dans ce métier, il faut être bien accompagné. Et il faut bien être accompagné chez soi, et il faut être bien accompagné tout court. Donc d'avoir quelqu'un, donc mon mari, qui me dit « Vas-y, je te soutiens, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, il faut essayer, enfin, et si ça rapporte rien, ben on reverra le schéma. » C'est un vrai confort. C'est-à-dire que cette chance-là, c'est d'avoir quelqu'un qui comprend, qui est là pour prendre le relais avec les enfants quand on ne peut pas, qui n'est pas du tout culpabilisant, bien au contraire, qui comprend le métier, qui vous fait pas la tête parce que vous annulez le énième déjeuner ou dîner chez des amis parce que vous avez un dossier de plaidoirie pour le lendemain. Ça, c'est une vraie chance. Et c'est vraiment partagé. Je pense que c'est important de souligner à quel point le fait d'être bien accompagné chez soi et bien entouré facilite le fait de vivre bien cette profession. C'est que si vous avez quelqu'un qui est décalé en horaire, qui comprend pas que vous n'êtes jamais là, ou que vous puissiez ne pas être là, qui comprend pas qu'il y ait parfois des urgences le week-end, même si c'est pas tout le temps, mais que ça arrive et que c'est pas du tout culpabilisant. Au contraire, c'est vas-y, écoute, je gère les enfants, révise ton dossier, on verra plus tard. C'est magique, quoi. Moi, je le remercie parce que s'il avait pas été là, je suis pas sûre que je suis même certaine que j'aurais pas pu. Donc, c'est ma réalité.
Ouais. C'est avec Anne-Sophie Nourry qui fait du droit des entreprises en difficulté chez Veil Gotchal qui en a parlé. Elle a 4 enfants et a dit, mais ça n'aurait pas été possible sans un mari extrêmement disponible et présent et investi, quoi, tout simplement. Enfin, un mari, un papa. C'est sûr qu'à un moment.
Et 3 garçons, donc voilà. Il y avait un peu des choses à faire, quoi.
Ouais. Et ça, c'était le soutien à la maison. Et vous avez dit le soutien en général et en dehors. Comment est-ce que vous avez été accompagnée en dehors?
Alors, en tout cas, je n'ai jamais imaginé exercer seule. Jamais. Je suis pas du tout solitaire. J'ai tout le temps besoin d'échanger. J'ai tout le temps besoin de challenger, d'être sûre qu'on n'a rien oublié. Donc le travail en équipe, ça, je sais pas faire autrement. C'est donc, de toute façon, c'était même pas imaginable que je puisse me lancer toute seule. Donc déjà, je suis partie avec ma stagiaire qui m'a fait confiance, qui s'appelait Aurélie, que j'ai tout de suite prise comme collaboratrice en lui disant, écoute, on verra bien pour l'instant. Voilà ce qu'il en est. Enfin, c'est transparent. Voilà. Alors, est-ce que tu pars avec moi ou pas? Elle m'a dit oui tout de suite. C'est très marrant parce qu'au début, comme j'avais été traumatisée par les timesheets, j'en voulais plus. Donc, je m'étais dit, c'est terminé les timesheets, c'est trop culpabilisant, on n'en fait plus. Au bout de 3 mois, on s'est dit, ah oui, mais en fait, ça va pas être possible parce qu'on sait même plus sur quoi on a travaillé. Donc, c'est pas possible. Donc, on les a réinstaurés, cet outil de torture hyper culpabilisant, mais voilà. Mais qui permet au moins, même quand on fait des cadeaux, et ça arrive très souvent, de le faire en toute connaissance de cause. Donc, ça, c'est un vrai outil de gestion. On peut pas faire sans. Et c'est vrai que du coup, on s'est lancé avec Aurélie à l'époque, comme ça. Et puis après, elle a fait le choix de retourner à Clermont-Ferrand. J'ai tout fait pour l'attacher au radiateur, mais il fallait qu'elle rejoigne son compagnon. Et aujourd'hui, voilà, c'est une brillante avocate que j'adore, qui est vraiment une personne qui a beaucoup compté. Et avec Aurélie, on avait également du coup ensuite recruté ensemble une stagiaire qui aujourd'hui est mon associée, Lorraine Petit, qui est une merveille d'intelligence, de rapidité, de qui est une excellente juriste et qui elle aussi fait des enfants et qui elle aussi a un mari, un compagnon formidable qui soutient, parce qu'encore une fois, pour qu'on soit si bien au bureau, il faut que à la maison, il y a une vraie compréhension de ce que peuvent être certaines urgences, même si en vieillissant, on n'est plus aussi corvéable, on l'est, c'est pas la question, mais peut-être qu'on arrive mieux à gérer, de pas forcément se fixer des échéances impossibles ou peut-être, finalement, on est son pire ennemi. Hein. Enfin, allez, je reste encore 1 heure, comme ça je finis. Mais pourquoi tu finis ce soir? Tu peux finir demain matin. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on essaye de mettre en place. C'est pas toujours facile.
Mais... Oui. Et donc cette stagiaire qui est devenue associée, ça s'est passé comment cette trajectoire? Au bout de combien de temps est-ce qu'elle est devenue associée? Qu'est-ce qui...
Au bout de combien de temps elle est venue associée? Ben je me souviens plus. Tiens, dis donc, ça doit faire 3-4 ans, je pense. Eh ben elle a 10 ans d'expérience, donc ça s'est fait petit à petit. Je sais même plus. Je pense qu'elle est devenue associée au bout de 5-6 ans. Je me rappelle plus.
Et le marqueur, ça a été un marqueur de... Elle développe de plus en plus une clientèle et c'est pertinent. Ça a été un marqueur de, la transmission. Enfin, je veux dire, on apprend toujours, mais globalement, elle est autonome et tout ça se passe bien. Qu'est-ce qui fait que ça a évolué?
Ce qui est très sympa, c'est que déjà, bon, on se connaît vraiment par cœur. Donc ça, c'est vrai que la relation, elle est tellement fluide que... Alors, il faut pas négliger la communication. Justement, parfois, il faut quand même faire attention parce que c'est important de formaliser les choses. Donc, les choses, elles se sont faites vraiment naturellement. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que je trouve que notre façon d'exercer à toutes les deux a évolué. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît vraiment, c'est transmettre. Donc, c'est essayer de rencontrer des gens, des porteurs de projets, de donner de l'information. Et si un jour ils reviennent et que ça fait un dossier pour le cabinet, tant mieux. Si ça le fait pas, j'aurais eu l'impression d'avoir été utile à un moment donné. Et ça, c'est tellement enrichissant, personnellement. Et c'est vrai que du coup, sans vraiment le formaliser, on a bien compris toutes les deux que j'étais plus attirée par cette communication, cette transmission, que de rester tout le temps au cabinet. Donc on a vraiment, elle s'est fait comme ça l'évolution, c'est que j'ai la chance de pouvoir être dehors parce que elle tient le cabinet.
Oui.
En gros.
Elle tient, elle sort les actes, elle...
Voilà, mais si demain elle me dit je veux venir, on change tout demain. C'est pas figé, voilà, c'est pas un rôle ad vitam, mais
c'est
je pense que
actuelle.
Ça correspond aussi à notre caractère, à nos envies, voilà, et puis j'ai 50 ans et puis je partirai et je serai contente qu'elle prenne le relais ensuite, voilà.
Vous avez un nom de marque pour votre cabinet, hein, c'est Pint.
Ouais,
c'est Pint Avocat. J'ai eu un doute un instant. Ça a été un nom que vous avez trouvé justement dans le cadre de cette association ou c'était le cas avant? Comment est-ce que ça s'est fait?
Non, c'est mon mari qui l'a trouvé. Parce que je disais toujours, tiens, bah là, on a une réunion PINT, c'est propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Ça, c'était dans les différents cabinets où on a circulé. Donc, ça s'appelait soit PINT, soit PI, soit... Et puis je cherchais un nom et puis il m'a dit mais PINT ça pète en fait, c'est plutôt chouette, ça se retient facilement. Donc pendant très longtemps on avait mis PINT et en dessous propriété intellectuelle une nouvelle technologie, puis on a arrêté de mettre la baseline parce qu'en fait le terme il se suffit à lui-même. Donc et puis cette étoile, parce que je sais pas si vous avez vu mais notre baseline,
je l'ai
c'est
en tête, ouais.
Voilà, c'est
enfin j'ai en tête l'étoile dans le logo qui est rouge ou rose, non,
qui est tout est dégradé de bleu, hein.
C'est bleu.
C'est bleu et la baseline, c'est la bonne étoile qui veille sur vos projets. Et c'est comme ça qu'on se voit. Et toute l'équipe est comme ça. L'équipe, en fait, elle est extrêmement soudée autour des projets, de l'intérêt humain, de l'intérêt des projets, de l'intérêt des dossiers. C'est vraiment une caractéristique de toute cette équipe.
Si ce n'est pas indiscret, ce que je comprends, c'est que du coup, vous êtes, on va dire, la plus communicante et la plus dans le développement d'affaires d'une certaine façon des deux, et que votre associé aujourd'hui est le plus dans la gestion du cabinet, le fait de produire pour les clients sur le fond quand il faut sortir des trucs, j'imagine la transmission avec les collaboratrices aussi, le management des collaboratrices au quotidien. Résultat, j'imagine que vous n'avez pas pu vous structurer en what you kill, comme on dit, quoi, que vous avez fait une communauté de revenus et que vous êtes à 50-50, et enfin, quelque chose dans ce genre-là, et que c'est un partage du gâteau, quoi.
Les choses, elles évoluent, en fait, à leur rythme. Elles sont plutôt liées à une augmentation où on décide, en fait, quelle est la rémunération. Et après, bah, tout ce qui est en plus, c'est partagé. Donc, on a le point mort du cabinet, on a la nature des investissements qu'on veut faire en termes de communication, de participation à la Juris Cup, d'organisation d'une soirée, de que sais-je, d'acquisition. Et après, ben, le reste, l'objectif, c'est de partager.
Ouais. Vous qui vous voyez bien collaboratrice toute votre vie et qui partiez pas du tout dans une logique entrepreneuriale dans la profession, c'est quelque chose qui vous épanouit finalement, le fait d'être à votre compte, de développer votre activité, votre cabinet, tout ça?
En fait, c'est une grande chance, toujours pareil, c'est une grande chance de pouvoir avoir le luxe de travailler avec des gens qui nous ressemblent. Je trouve que les clients ressemblent beaucoup à leurs avocats. Et la chance qu'on a, c'est que quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on sait tout de suite si ça va fitter ou pas. Et c'est pas que propre à moi, c'est propre vraiment à toute l'équipe. Et ça, c'est un... Enfin, voilà, on n'est pas... comme ça marche vraiment que par recommandation, on a cette chance-là. C'est vrai que je trouve qu'on fait vraiment de belles rencontres. Après, c'est amusant parce qu'il y a un stagiaire un jour qui m'a dit « Mais comment vous faites? Vos clients, ils ont toujours raison. » Et je l'ai regardé en me disant « Comment ça, ils ont toujours raison ?» Bah oui, quand vous en parlez, quel que soit le dossier, un contentieux, etc., ils ont toujours raison. Et je me suis dit, tiens, c'est...
Bah oui, ils ont toujours raison.
Mais oui, en fait, oui. Mais oui, puisque je comprends et que j'adhère et que je les défends, c'est qu'il y a quelque chose, mais de viscéral, hein, dans cette envie de défendre et d'être dans l'empathie.
Et donc, ce que j'entends, c'est que cette casquette, entre guillemets, entrepreneuriale, elle vous épanouit notamment par ce... la sélection que ça engendre en termes de clientèle et l'alignement parfait dans lequel vous pouvez être du fait de, ben voilà, des clients qui vous rejoignent pour vous personnellement, enfin en tout cas pour le cabinet PINT.
Complètement. Enfin, on ne subit pas les clients. Je suis pas forcée de travailler. Ça, c'est ce qui change par rapport à la collaboration. C'est ça. C'est cette adhésion, cette empathie, le fait d'être avec. Voilà.
Aujourd'hui, vous avez combien de collaborateurs dans le cabinet? Donc, vous avez une associée.
Une associée et deux collaboratrices, une stagiaire et une office manager.
OK.
Un pivot. Donc, ça soutient la structure totale, indispensable.
Donc, ça fait du monde quand même.
Oui.
Pour un cabinet boutique hyper niché.
Pour un cabinet boutique, ouais.
Donc, vous faites propriété intellectuelle, tout ce qui est droit des marques et données personnelles.
Oui, RGPD.
Nouvelles technologies, RGPD.
Ouais. Contentieux et conseil.
Et on parlait juste avant du fait que votre cabinet est installé à La Ciotat. Et voilà, et La Ciotat, donc c'est une toute petite ville enclavée dans les Calanques.
Exactement. Exactement.
À une demi-heure de Marseille.
C'est ça.
On n'est pas au cœur du hub de l'innovation du tout. Voilà, cette localisation des locaux, pareil.
Alors nos confrères américains nous situent pas sur la carte, mais comme ils ont parfois du mal à situer ne serait-ce que la France, je me dis que c'est pas très très grave. Mais oui, alors le choix, ben voilà, c'est je cherchais des locaux dans Marseille. J'ai rencontré la directrice de l'INPI, je m'en souviendrai toute ma vie parce que vraiment elle a été décisive dans cette décision. Et je voilà, et elle me dit mais je croyais que t'habitais à La Ciotat, pourquoi est-ce que tu cherches pas des locaux à La Ciotat? Et je l'ai regardée et c'est enfin frappée au coin du bon sens, ça ne m'avait même pas effleuré, mais pas du tout. C'est vrai que je me suis dit donc comme j'interviens auprès de l'INPI, que je suis formatrice, que je travaille beaucoup avec eux. Je suis formatrice en droit de l'informatique pour eux, que tous mes centres d'intérêt, ils sont quand même dans Marseille, Marseille Innovation. Enfin voilà, tout le cœur de l'activité, il est ici, les tribunaux. Enfin, je m'étais dit, mais tiens, ça ne me fait pas effleurer. Et puis j'ai cherché des locaux à La Ciotat. Enfin voilà, en me disant, tiens, pourquoi pas. Et là, on a des magnifiques locaux vue mer. On ne changerait pour rien au monde. Et ça a complètement changé ma vie. Après, en termes judiciaires, de toute façon, on est très souvent à Paris. Parce que c'est des contentieux qui relèvent soit des marques communautaires ou des brevets. Et donc, de toute façon, c'est des compétences d'attribution. Donc, en réalité, et puis les délais sont tellement longs.
Que vous pouvez vous organiser en avance.
On serait vraiment dans une activité droit commercial où on serait tous les jours au tribunal. Effectivement, ça serait une hérésie d'avoir fait ce choix. Mais là, puis ça m'a changé la vie. Je me souviens la première fois où mes enfants m'ont vu rentrer à 7h30 le soir. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es malade? Non, à partir de maintenant, je vais être là plus tôt le soir. Donc, ou quand il a fallu faire une sortie scolaire exceptionnelle où en 5 minutes j'y étais, ce que je faisais jamais avant. Je me suis dit, ah oui, ça peut changer les choses quand même.
Oui, le fait d'être à pied, d'être à distance. Et ça n'a pas posé de difficultés? Voilà, c'est bête, mais vous aviez déjà vos collaboratrices à l'époque.
Si, forcément, ça pose question. C'est pas évident. C'est un choix. C'est un choix qui me concernait moi d'abord. Donc c'est clairement. C'est vrai que quand vous passez des annonces, en plus on a un cabinet secondaire à Paris. Donc c'est vrai que quand les collaborateurs potentiels postulent, ils nous demandent bien si c'est à Paris parce que La Ciotat, ils voient pas trop où c'est. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué à faire valoir. Mais essayer, c'est l'adopter. Et c'est vrai que
Fait déménager des gens vers la.
Lorraine, ouais. elle a déménagé à La Ciotat. Les plus jeunes collaboratrices, elles continuent à habiter Marseille. Mais c'est après La Ciotat, ça reste une ville qui reste quand même plus familiale. Je suis contente pour elles qu'elles aient plutôt une activité ou des sorties qui puissent leur permettre d'être à Marseille. Mais on est dans le bon sens. Pour rejoindre La Ciotat quand on habite Marseille, on est dans le sens contraire du flux, donc elles mettent 25 minutes, une demi-heure pour venir, donc ça reste y compris pour des anciennes parisiennes, c'est tout à fait acceptable.
Oui, c'est l'équivalent en voiture de ce qu'on fait facilement en métro. Et chapeau du coup d'avoir fait venir quelqu'un depuis Paris vers non pas Marseille mais La Ciotat, parce que je pense que c'est le rêve de beaucoup de cabinets d'affaires et de niches que d'arriver à capter le vivier parisien et de les faire bouger. Alors c'est entre guillemets plus facile quand la ville de destination c'est Bordeaux, Lyon, même cœur Marseille ou Lille, pas forcément évident quand c'est les plus petites villes autour, donc franchement, chapeau, ouais. Comment est-ce que vous voyez la suite pour Pint? De quoi est-ce que vous avez envie?
Alors là, je suis très contente puisque, de plus en plus, je fais partie d'un certain nombre de réseaux, toujours pareil, sur l'accompagnement des créateurs d'entreprises ou des startups qui veulent ou des sociétés même plus matures qui veulent se repositionner sur leur technologie ou en adopter d'autres. Donc, par exemple, à La Ciotat, on a créé avec une association d'entreprises une commission innovation dans laquelle, en fait, on veut vulgariser cette notion d'innovation qui fait si peur aux entreprises parce que on a un vrai sujet en France qui, à mon avis, lié à l'éducation, qui est l'humilité. Je pense qu'il y a quand même un sujet sur la confiance en soi. Et sur le fait qu'on rencontre beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, des gens qui ont des sociétés, qui ont 5, 10, 15 ans, et on leur demande alors combien vous avez de brevets, et qui vous regardent en vous disant, mais j'en ai pas, comme ça vous n'avez pas de brevets. Mais vous êtes innovant, vous intervenez dans l'imagerie, dans les caméras, dans l'imagerie médicale. Comment ça se fait que vous n'ayez pas de brevet ? Ah non, mais ce qu'on fait, c'est pas assez bien. Comment ça, c'est pas assez bien ? Et on est dans l'autoflagellation en se disant toujours, mais l'innovation, c'est une innovation de rupture. Donc c'est quelque chose dont personne ne veut finalement, qui a pas de marché, qui est issu de nos établissements qui travaillent fort bien publics. Mais pour autant, les innovations du quotidien, il n'y a pas encore ce réflexe de se protéger, de sécuriser, de valoriser. Et c'est vrai que du coup, on a plein de choses à faire parce que l'innovation, on a plein. Plein, c'est au quotidien. Donc sur la Ciotat, il n'y avait pas encore de point de relais qui puisse matérialiser. On a beaucoup d'entreprises. En fait, la zone Atelia qu'il y a à la Ciotat se développe énormément et accueille de plus en plus d'entreprises dans tous les domaines avec un potentiel d'innovation énorme. Donc l'objectif, c'est déjà de leur faire se poser les questions et puis peut-être d'aller rechercher. Donc là, on discute beaucoup avec les dispositifs RUE, la etc. sur la mise à disposition de doctorants qui ont des spécialités particulières qui peuvent favoriser en fait ce passage d'échelle ou ces échanges même entre eux. Donc ça me tient beaucoup à cœur. Je suis ravie de pouvoir me lancer dans ça à la Ciotat puisque c'est là où on exerce. Et sinon dans Marseille, je suis très contente aussi parce que on m'a sollicité pour faire partie de jury sur le fait de décerner des prix de l'innovation, sur de participer à beaucoup d'éléments, pas beaucoup d'événements pardon dans ce secteur sur de la levée de fonds. Donc on fait beaucoup d'accompagnement et d'audit dans ces domaine.
Je trouve ça intéressant ce que vous dites sur l'appréciation par les entrepreneurs de la notion d'innovation. Et c'est vrai que moi, par exemple, juste pour parler de mon cas, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui me disaient « mais Fleur d'Avocat, c'est super innovant ». Et moi, je dis « ben, je sais pas, c'est un podcast ». Et j'avais pas l'impression de faire un truc particulièrement innovant en faisant un podcast pour les avocats. Et puis en fait, c'était perçu comme tel et c'est juste... d'aller chercher quelque chose qui existe ailleurs et de l'implémenter finalement dans un milieu où ça n'existait pas encore, bah rien que ça constitue une innovation. Et c'était la même chose quand j'ai commencé mes premières formations, c'était vu comme extrêmement innovant. Quand j'avais fait un premier crowdfunding en 2020, ça m'avait énormément coûté de présenter mon travail comme quelque chose d'innovant parce que j'avais l'impression d'être dans l'imposture totale, juste en m'appuyant sur le fait que c'était nouveau dans ce secteur. Pour dire bah du coup c'est innovant alors que je savais que ça existait ailleurs dans d'autres secteurs ou justement de façon non ciblée en termes de secteur ce que je faisais et c'est exactement la même chose qui s'est faite avec Iris et Témis, c'est-à-dire que c'est innovant. C'est effectivement innovant ce qu'on fait en termes de recrutement, ça n'existe pas dans le secteur, il n'y a pas d'autres acteurs qui font ce qu'on fait. Et d'un autre côté, je sais que ça existe ailleurs. Et donc, ça crée de l'autocensure de se dire, est-ce que du coup, on peut vraiment parler d'innovation? Donc voilà, ça me parle beaucoup ce que vous dites. Et bon, c'est avec... c'est sur des produits digitaux, j'ai envie de dire. Voilà, mais j'ose imaginer à quel point ça doit être aussi la même chose dans des secteurs plus deep tech, dont vous parliez, le secteur de la santé ou autre. Est-ce que vraiment c'est une innovation, cette molécule, alors que, oui, parce que cette molécule, dans tel contexte-là, je vous imagine bien en train de dire aux gens, mais c'est innovant.
Non, mais je trouve qu'ils ont ils ont de l'or entre les mains, parfois sans même l'avoir identifié. C'est ce que je trouve passionnant. C'est les leviers, en fait, de valorisation. Et ça, c'est aussi cette matière qui permet ça. C'est la propriété intellectuelle. C'est en ça que c'est magique. C'est un droit que je trouve passionnant, c'est ce démembrement de propriété, c'est le fait de se dire je protège mon innovation dans tel domaine, mais potentiellement il y a toutes ces applications possibles, et donc en termes d'axe de valorisation, je pourrais vendre par appartement, concéder des licences, organiser en fait des domaines d'exploitation, des secteurs, des réserver à la clientèle, enfin tout ce qu'on peut faire est passionnant en fait, c'est intellectuellement, c'est amusant. Et donc, du coup, pareil, on retombe sur l'aspect jeu que j'aime tant.
Et j'allais vous demander le fait d'avoir une clientèle qui est très constituée de jeunes pousses, de start-up. Alors, vous dites que vous travaillez aussi avec des sociétés plus matures, mais c'est pas forcément évident en termes de modèle d'affaires, justement. On parlait de business model tout à l'heure, puisque c'est pas le moment nécessairement où les entreprises ont beaucoup de fonds à allouer, et notamment à allouer aux juridiques. Donc, c'est le moment où c'est pas forcément facile à vendre et puis tout ça. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez été confronté ou vous êtes confronté? Comment vous contournez ça? Enfin, comment vous gérez?
Donc votre question c'est quoi? C'est si finalement on peut pas se facturer, c'est ça? Si
ouais, sur l'impact sur la facturation. Et on va dire, est-ce que ça a impacté votre business model de d'avoir pour cible, enfin pour type de clientèle, beaucoup de startups dont beaucoup sont en démarrage, en amorçage, pas avec énormément de financement disponible, et notamment alors, pour le juridique. Bah
après nécessairement, après enfin après ça dépend de, c'est une question de choix et c'est une question de, encore une fois, c'est vraiment, je, enfin c'est très sincère, hein, je ne vois pas les dossiers parce qu'ils vont me rapporter. Je vois les dossiers par rapport à l'intérêt de l'humain et à l'intérêt du dossier. Donc, si on part du principe qu'on travaille avec des gens intelligents, qui ont envie de partager, qui sont, qui se lancent en fait dans une aventure eux aussi entrepreneuriale ou qui sont basés sur une nouvelle techno, une nouvelle idée, une innovation d'usage. Enfin voilà, on est entre gens intelligents. On sait très bien qu'à un moment donné, moi aussi je vais m'épuiser si je fais que du conseil gratuit. Alors c'est pas le moteur, encore une fois, mais inversement, j'ai jamais eu de problème. C'est dingue. Hein. Ça ne m'est jamais arrivé qu'on me dise ben non. Enfin oui, qu'on me dise ben on va pas, on priorise. Voilà, c'est-à-dire que parmi toutes les choses, ce qui serait intéressant de faire pour sécuriser, on va peut-être pas tout faire en même temps. On va prioriser, on va peut-être décaler. Nous, on va concéder des délais de paiement. Mais vraiment, on n'a jamais eu aucune difficulté. Peut-être parce qu'il y a une vraie confiance mutuelle. Et voilà. Donc, je sais pas l'expliquer, mais c'est pas. Alors oui, on a. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit oh, mais toi, tu as beaucoup de petits dossiers. Alors déjà, j'ai pas compris le mot. Enfin, j'ai pas de petits ou de gros dossiers. J'ai des dossiers passionnants ou moins passionnants, mais j'ai pas des petits dossiers ni des petits clients. J'ai des clients. Des clients que j'adore, qui me font confiance, qu'on accompagne dans la durée, qui grossissent, qui parfois ont des échecs, parfois des succès, et qui nous associent 20 ans après encore. Hein, enfin, voilà, on a beaucoup de reconnaissance, je trouve. Donc ça vaut le coup.
J'ai une question qui émane du mail que j'ai reçu de la personne quand elle vous a... Je ne sais plus comment s'appelle cette personne.
Elodie Well.
C'était Elodie.
Oui.
Et je me souviens que quand elle m'avait écrit, elle avait insisté sur l'orthographe de votre prénom.
Oui.
Sandrine, oui. C-E-N-D-R-I-N-E. Et je me souviens qu'elle m'avait parlé de... Enfin, elle avait évoqué la spécificité de ce prénom et tout ça. Et du coup, ça me donne envie de vous poser la question de votre prénom, Sandrine.
Ouais, elle est mignonne. Elodie, ouais. C'est une pépite. Elle est brillante. C'est un amour. La spécificité de mon prénom, oui, Sandrine comme Cendrillon. Donc, ça amuse beaucoup les clients parce que souvent, le correcteur orthographique corrige d'office. Donc, c'est assez amusant. Non, en fait, l'histoire, c'est que c'est Sandrine Clavier et mes parents, ma mère notamment, est persuadée que les doubles initiales portent chance. Donc quand je vous dis que depuis que je suis née, je pense que j'ai cette petite lumière de chance au-dessus de ma tête, c'est que voilà, c'est lié aux doubles initiales. Je pense même qu'ils ont poussé le vice quand même jusqu'à choisir même mon troisième prénom qui s'appelle Karine en l'écrivant aussi avec un C. Donc après, je vais pas faire l'analyse psychologique pour voir d'où leur vient cette obsession. Mais
j'allais vous demander du coup si vous aviez une relation particulière à Coco Chanel, mais s'il y a un troisième C dans l'identité, en fait, ça marche pas.
Non. C'est le cube.
Je vous ai demandé ce que vous vouliez pour demain. Quel est votre principe déontologique préféré?
C'est une belle question. J'y suis hyper attachée. Tout ce qui est déontologie est pareil, fait partie de la construction et des principes. Humanité, je pense, c'est extrêmement important. Confidentialité, enfin tout ce qui est structurant. Je trouve que notre déontologie, c'est aussi nos règles de politesse. Hein. Enfin, ça va de pair, donc c'est fondateur.
Quelle est votre dernière joie?
Bon, c'est les fous rires qu'on prend avec l'équipe. Hein. C'est des pépites. Cette équipe-là, elle est... Quelle chance qu'elle se sente bien chez nous. Quelle chance. Je trouve que ce qui caractérise aussi ce cabinet, c'est vraiment le fait qu'on prenne beaucoup soin les unes des autres. Et que c'est la priorité de faire en sorte que tout le monde se sente bien et se chouchoute et fasse vraiment attention aux unes aux autres. C'est que de l'affect, voilà, et pas des faits, contrairement à ce que me disait un de mes patrons qui me disait toujours, toi, t'es beaucoup trop dans l'affect. Et puis je me suis dit, bah oui, bah en fait, je vais pas changer.
Oui. Est-ce vraiment grave d'avoir de l'affect?
J'ai considéré que non. Après avoir longtemps lutté en me disant, qu'est-ce qu'il faut que je change? Bah tant pis.
Et dernière question, qu'est-ce que vous portez sous votre robe ?
Un idéal ?
Un idéal ? Mmh. C'est quoi cet idéal ?
Bah, c'est un idéal de justice, de défense, de... C'est tout ce qui fait vibrer, toute cette, le fait de faire corps avec ça, le fait d'essayer de convaincre, le fait d'être déçu quand ça marche pas et d'être ravi quand ça l'est, c'est toutes ces joies-là, c'est toutes... Et oui, ouais, c'est une forme d'idéalisme de cette profession.
Merci beaucoup pour cet échange.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine !